Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Décryptage. Deux semaines après la mort de George Floyd aux États-Unis, cet homme noir étouffé par un policier blanc lors de son arrestation, l'heure est aux hommages et aux questions de fond. Les élus de Minneapolis s'engagent à démanteler la police de la ville et le Congrès américain se penche ce lundi sur un projet de loi présenté par les démocrates. Il prévoit de réformer le recrutement et la formation des policiers et de faciliter les poursuites judiciaires contre les agents de police. Mais pour le ministre de la Justice de Donald Trump, il n'est pas question de revenir sur l'immunité légale qui protège les policiers. Alors comment fonctionne le système américain et la police, ou plutôt les polices aux États-Unis? Et quelles pistes pour repenser les pouvoirs des policiers? On en parle pendant les 20 prochaines minutes. Bienvenue! Deux invités sont avec moi par téléphone pour évoquer ces questions. Bonsoir Simon Grivet.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en civilisation et histoire des États-Unis à l'Université de Lille. Et nous sommes en ligne également avec Didier Combeau, spécialiste des États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Didier Combeau, vous avez écrit il y a 2 ans « Police américaine » au pluriel, et nous verrons pourquoi c'est important ce pluriel. Et puis toujours chez Gallimard, vous publiez ce mois-ci un autre livre sur les États-Unis qui s'appelle « Être américain aujourd'hui ». Je vous remercie tous les deux d'être avec nous pour parler donc des pouvoirs des policiers américains et d'abord peut-être de la violence de la police aux États-Unis contre les Noirs américains. Mais ça, on peut malheureusement le constater régulièrement, il y a eu beaucoup d'affaires et George Floyd n'est pas le premier à mourir à cause de brutalité policière. Mais la violence tout court aussi de la police, Simon Grivet.
Oui, absolument. Alors, pour être juste, il faut replacer tout ça dans le contexte de la société états-unienne en général, qui est une société violente, bien plus que la société française. Il y a 5 fois plus d'homicides aux États-Unis qu'en France. Donc, ceci étant dit, il est évident que dans ce contexte, les polices états-uniennes sont plus violentes et on compte à peu près, les chiffres sont difficiles à établir avec exactitude, mais de l'ordre de 1000 personnes qui sont tuées chaque année par les policiers. Donc c'est en soi énorme. Donc ça pose évidemment un vrai problème d'ensemble pour la société états-unienne.
Alors, une ancienne shérif de l'État de Washington avait écrit un rapport sur une réforme de la culture au sein de la police. Si je me trompe pas, c'était en 2015 et elle parlait d'un état d'esprit paramilitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme, Didier Combeau?
Oui, effectivement, il y a un état d'esprit paramilitaire. Et d'ailleurs, les polices, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, se sont militarisées avec la mise en place dans beaucoup de départements de police de SWAT teams, de ces unités qui utilisent du matériel militaire, des blindés, qui à l'origine étaient prévus pour faire face à des situations exceptionnelles, à des situations de forcenés, de prise d'otages, etc. Et puis qui ont été utilisés très souvent et qui sont très souvent utilisés aujourd'hui par les départements de police pour des perquisitions dans le cadre d'affaires de stupéfiants, de manière à faire des perquisitions par surprise, ce qu'on appelle des no-knock warrants, parce que la police ne frappe pas, la police s'introduit de force dans le logement pour éviter que les gens qui s'y trouvent aient le temps de faire disparaître les stupéfiants. Et donc, cela donne une très très mauvaise image aux polices qui apparaissent en particulier dans les quartiers afro-américains comme de véritables armées d'occupation.
Alors on parlait à l'instant de la lutte contre les stupéfiants et des méthodes qui étaient mises en place. Simon Grivet, à partir de quand est-ce que cette tendance paramilitaire dont on parlait a commencé? Est-ce que c'est justement au moment de la guerre contre la drogue dans les années 80 ou est-ce que c'était déjà en cours plus tôt?
Oh non, c'est bien plus ancien. Il y avait un papier de notre collègue Khalil Mouhamad, qui est un historien d'Harvard, sur le très bon média Vox, il y a quelques jours, qui rappelait que, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les villes américaines avaient été secouées par des émeutes racistes, des pogroms, ce qu'on a appelé l'été rouge, l'été sanglant, à Chicago, notamment, à Washington DC aussi. Et on avait vu, les enquêtes parlementaires avaient révélé que les policiers avaient laissé faire, voire même parfois avaient participé à ces émeutes, à ces pogroms contre les populations africaines-américaines. Donc malheureusement, cette question des relations entre la police, souvent une police blanche, les populations africaines-américaines ou hispaniques, les minorités en général aux États-Unis, se posent depuis à peu près un siècle. Et on peut dire que ça s'est accru, c'était une des causes des grandes émeutes des ghettos africains-américains à la fin des années 60. Et bah, ça continue aujourd'hui. Et c'est revenu sur le devant de la scène depuis 2012-2014 avec le début du mouvement Black Lives Matter. Donc c'est aussi une des raisons de la colère, c'est que bah, quand les États-Unis se penchent sur cette histoire, ils se rendent compte que ça fait presque un siècle que la société états-unienne est prise dans ce cercle vicieux de violence, de racisme, de bavure, d'injustice, et ça nourrit la contestation et le désir de justice.
Avec ces violences, effectivement, qui concernent de manière disproportionnée des Noirs américains, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps d'un racisme qui serait structurel au sein de la police aux États-Unis, et les chiffres vont dans ce sens, hein, d'ailleurs. Il y a eu des efforts ces dernières années pour davantage de diversité au sein de la police. Est-ce que ça a été efficace, Didier Combo ?
Oui, alors, effectivement, il y a eu des efforts. Hein. Si on prend par exemple la police de Minneapolis, en 2012, c'est une femme qui a été nommée chef de la police, hein, à Minneapolis, et une femme gay, officiellement gay, et d'origine amérindienne. Donc c'était une personne qui finalement cochait un petit peu toutes les cases en ce qui concerne les minorités, et effectivement elle a essayé de réformer le service de police, et elle n'y est guère parvenue, et elle a dû démissionner en 2017 parce que il y avait eu un drame déjà à Minneapolis, le drame d'une femme qui était d'origine australienne, une jeune femme qui d'ailleurs allait se marier, et elle a été tuée par un policier afro-américain. Donc donc elle a des, cette chef de police Artaud, hein, a démissionné et elle a été remplacée par un chef de police afro-américain. Donc cette histoire montre clairement que c'est pas seulement un problème de racisme individuel des policiers, c'est vraiment un problème qui est systémique et qui dépasse amplement les personnes. En particulier les syndicats de policiers, hein, les syndicats des policiers de base sont assez réfractaires à la réforme, et puis il y a dans les polices une culture du silence qui fait que on dénonce difficilement un collègue qui commet des abus.
Justement, puisque vous en parlez, Didier Combo, c'est vrai qu'il y a eu des efforts au niveau local pour mettre un terme aux violences policières au sein de l'institution. La ville de Minneapolis, c'est un bon exemple. Il y a eu plusieurs chefs qui ont tenté de réformer l'institution. Il y avait même certains officiers qui avaient été renvoyés à l'époque. Et en fin de compte, on voit qu'ils n'ont pas réussi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Il y a ce silence dont vous nous parliez, une sorte de solidarité entre les agents peut-être aussi ?
Alors oui, il y a une solidarité entre les agents, il y a la difficulté à les sanctionner, et puis aussi il y a ce qu'on disait tout à l'heure, que la société américaine est une société très violente, hein, avec un libre accès aux armes, et donc les policiers évoluent effectivement dans un univers assez dangereux. D'ailleurs, l'incident George Floyd n'est pas très représentatif, parce que George Floyd a été tué par étranglement, avec un acharnement qui apparaît sur les vidéos. La plupart du temps, les abus policiers, c'est pas ça. C'est un policier qui fait usage de son arme de service, donc quelquefois dans un moment de panique, il est difficile de savoir s'il était en légitime défense, s'il ne l'était pas, s'il pouvait effectivement estimer l'être de manière raisonnable. Et donc souvent, les policiers ne sont pas sanctionnés parce que il est considéré qu'ils étaient en légitime défense. Et là, c'est pas du tout le cas, évidemment.
Ce qui est très difficile à prouver, évidemment, le principe de légitime défense. Et on voit bien quand même qu'il y a un problème, parce que Derek Chauvin, donc ce policier qui a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant quasiment 10 minutes, presque 9 minutes, on a appris depuis que 17 plaintes avaient été émises contre lui durant ces 19 années durant lesquelles il était en poste. Comment est-ce que c'est possible qu'un policier qui fait l'objet d'autant de plaintes puisse être encore actif sur le terrain et participer à des arrestations, Simon Grivet ?
Bah ça relève de ce que soulignait Didier Combo, c'est-à-dire que y a une incapacité à réformer, à purger certains départements de police de leurs mauvais éléments, et puis plus largement, il y a une culture de la violence qui est parfois une culture raciste, hein, qui pose problème aujourd'hui quand elle est révélée, quand elle est connue. Et puis il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement une jurisprudence qui protège très souvent, les policiers, quand ils font usage de la force, c'est très difficile de prouver qu'ils n'auraient pas dû le faire. Il y a une affaire célèbre il y a 2 ans à Sacramento, en Californie, où un homme noir a été abattu par des policiers qui croyaient qu'il avait une arme. Alors en fait, il n'avait pas une arme, il avait son téléphone portable à la main. Eh bien, ces policiers n'ont pas été inquiétés. Il n'y a pas eu d'enquête parce qu'on a dit, bah non, ils pouvaient raisonnablement penser que la personne en face d'eux avait un téléphone, et, enfin, avait une arme et pas un téléphone. Et puis, comme l'a dit Didier Combeau aussi, les syndicats sont un obstacle régulièrement à ce genre de réforme. Ils s'opposent aux remises en cause et ils sont souvent un peu comme les syndicats du personnel pénitentiaire par rapport aux prisons et à la question de la réforme des prisons aux États-Unis aussi. Ils sont des lobbies importants au niveau local, au niveau des villes, des comtés, des États. Et ils peuvent peser sur la législature, ils font des dons financiers, ils peuvent influencer les électeurs. Ils sont très impliqués en politique. Et du coup, souvent, ils sont craints par les hommes politiques et les femmes politiques qui essayent de réformer les choses. D'où ce à quoi on arrive à Minneapolis, cette position extrême qui est de dire bah, « nous, on va démanteler le service de police, on va faire autre chose », ce qui paraît incroyable.
Oui, ce qui est assez incroyable, c'est-à-dire que les élus de la ville de Minneapolis disent « on va carrément démanteler parce qu'en fait, une réforme, ça n'est pas possible ».
Voilà, alors du coup ça fait 24 heures un petit peu que les médias états-uniens tournent en boucle sur cette question et on s'aperçoit qu'en fait ça représente des choses, pour l'instant c'est un idéal en fait, il y a une partie des conseillers municipaux qui pensent que c'est possible, d'autres qui pensent que c'est peut-être un moyen pour arriver à autre chose, et ce que certains spécialistes, notamment juristes disent, c'est que peut-être en cassant ce département pour en reconstruire un autre ou reconstruire autre chose, on peut notamment faire reculer l'influence néfaste des syndicats et obliger ceux qui seraient les nouveaux policiers de Minneapolis à accepter un contrôle et des dispositifs de contrôle bien plus importants que jusqu'ici avaient été mis en place. Et puis vous avez un deuxième grand axe qu'on retrouve à New York et à Los Angeles, qui est l'idée de faire baisser les budgets de la police, Defund Police Departments, qui est aussi intéressant en disant bah, peut-être qu'on pourrait dépenser aussi de l'argent pour faire un peu de social, au lieu d'avoir simplement des gens qui roulent en voiture blindée, qui sont prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Je caricature un peu, mais c'est ça.
Avec un côté peut-être un peu plus police de proximité. Ce que vous nous disiez sur l'influence des syndicats qui deviennent presque des lobbies, en fait, c'est assez important et ça me ramène à votre livre, Didier Combeau, c'est qu'en fait, il n'y a pas une police aux États-Unis, mais 18 000 forces de police qui dépendent donc de comtés, de villes, d'États, avec des enjeux locaux donc.
Oui, et même plus que ça, il y a aussi les polices des universités, par exemple, il y a les polices des parcs, il y a les polices des transports, des chemins de fer, etc. Et donc, il y a effectivement un très très grand nombre de départements de police. Alors, les plus importants, bien sûr, sont les polices des villes. Et les villes ont intérêt à réformer leur police, parce que d'abord, ça donne une très mauvaise image d'une ville, hein, quand il se produit des choses comme ils se sont produits, comme on a vu à Ferguson, ou bien à Minneapolis ou ailleurs, et ça leur coûte aussi très cher en termes de budget, puisque en 10 ans, par exemple, la ville de Boston a dû dépenser $36 millions en dommages et intérêts pour des bavures policières, Los Angeles 100, Chicago plus de $500 millions en 10 ans. Et donc c'est aussi extrêmement coûteux pour leur budget. Donc elles essaient depuis longtemps de réformer les départements de police et les syndicats de gradés de la police, le syndicat des commissaires est aussi en faveur d'une réforme des polices. C'est le syndicat des policiers de base, hein, les policiers qui sont en chemise bleue par opposition à ceux qui sont en chemise blanche, hein, par opposition aux gradés, qui sont très résistants. Et donc les départements de police ont essayé de mettre en place ce qu'on appelle le community policing, qui est la police de quartier, en quelque sorte, qui a une approche un petit peu plus sociale, où on leur demande de faire du lien avec les associations, avec les commerçants, avec les écoles, etc. Parfois de patrouiller à pied au lieu de patrouiller en voiture, par exemple. Et puis ça, les policiers sont assez réticents à mettre ça en place. Ils considèrent que c'est dénaturer leur métier, que c'est les ramener au rang de travailleurs sociaux. Et donc, c'est très difficile à mettre en place. Et l'idée, lorsqu'on parle de defunding et de démantèlement des polices, eh bien, l'idée, c'est pas de supprimer la police, bien évidemment, mais c'est de, en quelque sorte, repartir à zéro et mettre en place aussi des systèmes sociaux et des systèmes d'assistance sociaux pour faire face à toutes sortes de problèmes qui ne devraient pas effectivement relever de la police.
Alors les démocrates présentent aujourd'hui au Congrès une réforme de la police au niveau fédéral. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut imaginer un changement fédéral compte tenu de ce que l'on vient de dire, Simon Grivet?
Alors, c'est important politiquement, mais il y a assez peu de chances que ça aboutisse, puisque vous le savez, le Congrès est divisé entre la Chambre qui est à majorité démocrate et le Sénat qui est à majorité républicaine. Et par-dessus le marché, évidemment, la Maison-Blanche qui est entre les mains de Donald Trump, qui est hostile à ce projet. C'est le ministre de la Justice, son ministre de la Justice vient de le confirmer aujourd'hui. Néanmoins, c'est un projet important pour que l'électorat sache que le Parti démocrate a des choses à dire, qu'il comprend l'importance fondamentale de ce mouvement depuis deux semaines et qu'il a des solutions, c'est-à-dire que s'il obtient le pouvoir et s'il récupère le contrôle du Sénat, qui va être un des enjeux majeurs de l'élection de novembre, hein, au-delà de la présidence, eh bien si avec un Joe Biden président et un Sénat éventuellement démocrate, on pourrait changer les choses. Donc c'est
oui, ça n'est pas anodin de le dire maintenant, évidemment, en pleine campagne électorale. Alors, vous nous parliez du ministre de la Justice qui a fait savoir qu'il ne voulait pas de cette réforme. Il a expliqué qu'il ne voulait pas qu'on touche à l'immunité légale. Didier Combeau, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est? J'ai vu aussi le terme immunité qualifiée.
Oui, effectivement, c'est une immunité qui s'applique à tous les agents publics, hein, à tous les agents de l'État, et donc tout particulièrement aux policiers, pour éviter qu'ils aient affaire à des attaques injustifiées, et qui est souvent utilisée effectivement pour protéger les policiers. Mais attention, l'immunité qualifiée protège les personnes, mais ne protège pas les institutions. Donc les institutions peuvent, elles, être mises en cause lorsqu'il y a des abus. Et on parlait du gouvernement fédéral. Alors les polices étant locales, elles ne dépendent effectivement pas du gouvernement fédéral. Il y a le gouvernement fédéral peut utiliser le levier du financement éventuellement parce qu'il donne des subventions. Mais surtout, le gouvernement fédéral, il peut intervenir s'il y a des abus en traduisant les départements de police en justice devant la justice fédérale, puisque l'État fédéral peut défendre ses citoyens lorsqu'il y a des abus qui sont commis, surtout si ce sont des abus discriminatoires. Et c'est ce qui a été fait beaucoup par les gouvernements Clinton et Obama. Et ce qui se passe lorsque le gouvernement fédéral traduit un département de police en justice, c'est que très souvent il y a un accord négocié qui est passé, et plutôt que d'être traduit en justice, les départements de police préfèrent promettre de faire des réformes, et il y a un garant qui est nommé sous l'autorité d'un juge pour vérifier que ces réformes sont mises en place.
Et est-ce qu'il y a un suivi réel?
Pardon?
Est-ce qu'il y a un suivi réel?
Oui, il y a un suivi réel, il y a effectivement un suivi réel, mais le gouvernement Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a décidé de mettre fin à ce système de contrôle par le biais de la justice, considérant que la police était une affaire locale et que ça n'était pas la prérogative du gouvernement fédéral que de s'en mêler.
Donc a priori, pas question que ça change, et le Sénat étant dominé par les Républicains, comme nous le rappelait Simon Grivet il y a quelques instants, on imagine bien qu'en tout cas pour l'instant, il n'y aura pas de changement en profondeur ni de retour à ce que vous nous décriviez. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Didier Combeau, spécialiste des États-Unis, je rappelle le titre de votre dernier livre qui paraît ce mois-ci, Être américain aujourd'hui, c'est édité chez Gallimard. Et Simon Grivet, maître de conférences en civilisation et histoire des États-Unis à l'Université de Lille. Merci à toute l'équipe de Décryptage, Fabrice Violet, Éléonore Krenik et Patrick Adam. Je vous souhaite à tous qui nous écoutez une très bonne soirée sur RFI. Restez avec nous dans quelques secondes, c'est le débat du jour. Guillaume Nodin et ses invités s'interrogent sur les élections municipales en France. Le second tour qui est prévu à la fin du mois de juin, 3 mois après le premier tour à cause du confinement et du coronavirus, eh bien, ce second tour a-t-il encore un sens? La réponse tout de suite sur RFI, évidemment.